Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 18h et vous écoutez un nouvel épisode de Chronique Démocratique.
Salut, salut, t'as deux minutes ?
Quand on me demande, êtes-vous démocrate ?
C'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
Démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ?
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street quoi, je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h.
Depuis que nous avons débuté Chronique démocratique en septembre, on a quand même beaucoup abordé le sujet de la participation citoyenne du point de vue des élus. Presque comme si le point de vue des citoyens, en fait, n'était qu'un sujet secondaire. Or, on ne voudrait pas vous donner cette impression. Alors, il est temps d'aborder ce sujet épineux, mais non moins passionnant, qu'est celui des publics. Les participants, mais aussi les non-participants, ceux qui ne viennent pas aux démarches de participation citoyenne. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les citoyens eux-mêmes. Pourquoi participent-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Et qui sont-ils vraiment ? Est-ce que tous les citoyens se mobilisent dans ces dispositifs ? Sinon, y a-t-il des exclus du pouvoir ?
Pour nourrir nos réflexions, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Dionnet, cofondateur de l'ISOD, une société coopérative spécialisée dans la concertation, et Melvin Stecker, jeune chercheur dont les sujets de recherche portent non pas sur qui participe, mais au contraire sur ceux qui ne participent pas. Ce sont eux qui nous accompagnent aujourd'hui pour répondre à ces questions qui traitent toutes d'un même enjeu, celui des publics de la participation.
Faire participer les citoyens, c'est vaste. D'abord, qui sont ces citoyens dont on vous rabat les oreilles depuis 4 épisodes ? Lorsqu'on parle de citoyens en France, on a tendance à n'avoir en tête que ceux qui ont la nationalité française. Mais lorsque nous parlons de citoyens dans cette émission, on entend plutôt ceux qui vivent en France, de manière plus large, tous ceux qui sont concernés par des décisions politiques françaises.
Nous sommes en guerre.
Cela concerne donc vraiment beaucoup de gens très différents.
L'État paiera.
Des jeunes, des vieux, de tous les genres, toutes les origines, toutes les classes sociales. Toutes ces personnes ont leur mot à dire quand une décision les impacte. C'est pour cela que la participation citoyenne est par essence ouverte à la diversité. La démocratie défend la différence et se nourrit de la différence. Différence de profil, mais aussi d'opinion, de trajectoire, de vécu. Une vraie démarche démocratique doit chercher à intégrer tout le monde dans la décision publique. Et c'est l'idéal que l'on doit chercher à atteindre.
Ainsi intervient notre premier invité, Mathieu Dionnet. Son travail, c'est de mettre en place des concertations sur des projets.
Alors nous, on travaille avec différents publics. Et effectivement, un des critères, c'est qu'on ait une représentativité au sein des participants qui ont contribué à l'élaboration du projet. Et on est en droit aussi de demander des comptes. Si un projet n'a été réalisé que par des retraités, on est en droit de demander des comptes auprès des décideurs sur la validité de ce projet. Au sens qu'il ne reflète peut-être pas l'intérêt de toute la société ou tous les habitants de la collectivité.
Comme le souligne à juste titre notre intervenant, ça devient un problème si une seule catégorie de la population est représentée dans une démarche. On ne colle plus vraiment à notre idéal, au contraire même. Et d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait un hasard si notre intervenant a choisi de mentionner les retraités. Il y a certaines personnes que l'on retrouve très 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 souvent dans les dispositifs de participation citoyenne. Que ce soit dans des conseils de quartier, des réunions publiques, des concertations urbaines, on va les croiser plus souvent que les autres. Ils répondront toujours présents, ce sont des immanquables. Il s'avère que ceux-là sont assez souvent à la retraite. Le retraité est un peu un profil type. Mais ce n'est pas le seul. Si on affine notre observation de qui participe le plus, on retrouve le plus souvent des anciens militants, des anciens élus, des acteurs du tissu associatif ou économique local, des gens avec un ancrage local fort.
Tout cela porte un nom peu flatteur dans le champ de la participation. On les appelle les TLM, toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que ce sont toujours les mêmes profils que l'on retrouve dans chaque dispositif.
Alors ça, c'est une problématique assez commune dans les processus de concertation citoyenne. C'est les biais de participation qui vont engendrer en fait, du coup, des propositions qui reflètent une partie seulement de la société. Donc ces biais de participation, ils sont liés à plusieurs choses. Première chose, c'est la disponibilité Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas participer parce qu'elles doivent, par exemple, garder leurs enfants à la maison ou bien parce que réellement, elles n'ont pas le temps. Ce biais, il est contourné, par exemple, dans le cadre des jurys d'assises, il est contourné par la mise à disposition des personnes qui sont tirées au sort. Et après, il y a un biais qui est lié aussi à, je pense, dans une vie, on ne s'intéresse pas forcément aux mêmes questions tout au long de sa vie. Les questions qui touchent l'intérêt général, qui touchent l'aménagement, qui touchent les questions collectives. C'est pas forcément évident de les aborder quand on est plus jeune, je pense. En tout cas, nous, on voit beaucoup moins de jeunes candidater. Et c'est plutôt un public qu'on doit aller chercher et qu'on doit mobiliser pour qu'ils puissent participer.
Pour contrer ces effets et ces biais, on peut essayer de mettre en place des mesures pour rééquilibrer les profils. Les villes, par exemple, sont conscientes de cet enjeu du profil et font un effort pour renouveler leur public. Tirage au sort, panel représentatif, il existe plusieurs méthodes.
À Saint-Martin-de-Seignan, les élus souhaitent inclure les citoyens dans la vie municipale en leur permettant d'intégrer des commissions et de prendre part aux avant-projets immobiliers. Pour ce faire, un tirage au sort des administrés a été organisé. Ce tirage au sort s'est effectué à partir de la liste électorale en séparant les plus et les moins de 50 ans et les hommes et les femmes afin d'avoir les deux catégories d'âge représentées et de respecter la parité.
En tout cas, nous, dans le cadre de nos activités, on va chercher plutôt à travailler avec des panels. Généralement, on commence avec une réunion publique qui est ouverte à tout le monde. Donc là, tout le monde vient s'informer sur l'organisation de la concertation. On explique un peu les tenants et aboutissants. Et on essaye de motiver les personnes intéressées à participer à ce panel, ou en tout cas à candidater. Ensuite, on crée un panel. On essaye de le rendre le plus représentatif possible de la société, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir pas seulement des personnes âgées, mais à avoir également des jeunes, des gens de différents genres, des gens de différentes catégories socioprofessionnelles, de différentes sensibilités également vis-à-vis de la problématique qui est traitée, et pas que des militants associatifs, mais également des personnes qui n'ont pas l'habitude de participer à ce type de processus.
Mais alors, pourquoi a-t-on besoin de recourir à ce genre d'artifice ? Pourquoi on n'a pas une représentation statistique de la population qui émerge toute seule ?
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique.
C'est vrai, qu'est-ce qui peut bien expliquer que certains sont plus incités que d'autres à se déplacer ? D'abord, il faut regarder du côté des motivations des participants. On ne participe pas si on n'a pas une bonne raison de le faire. En l'occurrence, il y a plusieurs raisons qui sont convoquées par les participants.
La première motivation qui est assez habituelle dans les réunions publiques ouvertes à tout le monde, c'est de questionner finalement le projet qui leur est soumis, avec aussi la crainte qu'on va leur imposer quelque chose qui va générer des effets négatifs. Cette première attente, on va dire, elle est souvent la conséquence de l'historique, on va dire, de la relation entre par exemple la collectivité et les citoyens. Un projet qui n'a pas été annoncé et qui a été fait sans information aucune, ou alors une promesse qui n'a pas été tenue.
Tu mens, toi?
Non, c'est pas. J'aime pas les menteurs.
J'aime pas les menteurs, je te dis.
Ensuite, il y a aussi des personnes qui viennent simplement pour s'informer, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de canaux d'information et on se dit que dans ces réunions, on va pouvoir mieux comprendre ce qui est prévu. Et des fois, alors quand on a ces attentes, certains participants ne comprennent pas qu'on va leur permettre à travers un processus de faire des propositions et ils attendent qu'on leur propose quelque chose sur lequel ils pourraient réagir.
Ça ne vous intéresserait pas de participer ?
Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Jamais je participerai, à part à vos obsèques, bande de cons.
Puis après, il y a des personnes qui participent également parce qu'elles considèrent que c'est des questions importantes, qu'elles ont leur mot à dire, qu'elles ont envie de contribuer. Elles sont intéressées par le sujet et elles ont envie d'apporter des choses, quoi.
Mais si on veut comprendre pourquoi on retrouve systématiquement les mêmes profils, on ne peut rester au stade des motivations personnelles. Il faut chercher plus loin, prendre de la hauteur et s'interroger sur les causes plus structurelles de la participation.
Car oui, il y a des cadres sociaux qui influencent le fait que l'on participe ou que l'on ne participe pas. Ce n'est pas un hasard si on trouve statistiquement moins de jeunes que de vieux dans nos démarches, ou que l'on retrouve davantage des classes moyennes bourgeoises que des classes populaires. Nous ne sommes pas tous égaux devant la participation, car nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour y accéder.
Monsieur Pépineau, vous êtes un cancre. Sortez.
Participer, ça demande d'être à l'aise à l'oral, d'être capable de s'exprimer devant un public sur des sujets compliqués. Et il faut avant tout arriver à s'auto-convaincre que l'on a le droit de participer. Au contraire, si on ne se sent pas à sa place, qu'on a l'impression que les autres ne nous reconnaissent pas, ne reconnaissent pas notre voix, alors on est moins enclin à venir. Il y a toutes sortes d'obstacles, de barrières symboliques qui représentent autant de freins pour participer. Or, on sait que certaines catégories de la population sont mieux équipées que d'autres pour payer le coût d'entrée de la participation. Ouvrons une parenthèse. Il existe un autre type de concertation dont on ne vous a encore jamais parlé. Et dans ce cas, la participation n'est absolument pas un coût, au contraire.
On travaille autant avec des citoyens dans des démarches de concertation citoyenne qu'avec des acteurs qui représentent des groupes d'intérêt. Et donc là, on va parler plutôt de concertation multi-acteurs ou encore dans le cadre de concertation entre élus. Ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive parfois d'organiser des processus pour permettre aux élus de travailler ensemble d'une façon plus collaborative qu'ils ne le font habituellement dans leurs instances.
Ce ne sont pas des citoyens, mais des représentants du monde associatif, des acteurs économiques, des syndicats et même des élus. Et oui, des élus qui participent et se retrouvent à la place des citoyens. Cela peut permettre de mettre tout le monde à une table et de négocier, trouver des compromis ou encore de co-construire pour de grands projets d'aménagement. Mais au niveau du format, on note finalement assez peu de différences avec les concertations citoyennes classiques.
Alors la principale différence, c'est que dans le cadre de concertations multi-acteurs, les personnes qui participent ont déjà une opinion sur la question qui leur est posée et ont généralement de l'expertise également. Alors que quand on travaille avec des citoyens, ils ont leur propre opinion qui est construite sur leur expérience vécue, par exemple. Mais généralement, il est nécessaire de les monter un peu en compétence en leur faisant prendre connaissance, par exemple, de certains enjeux qu'ils ne verraient pas a priori.
Les publics de la participation sont donc variés. On peut très bien appliquer ces méthodes d'inclusion, d'échange constructif, d'intelligence collective à des profils qui dépassent le statut du citoyen. Peut-on pour autant en conclure que ces acteurs seraient de super participants, plus savants, plus éclairés que nos citoyens profanes ?
En pratique, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'à travers un processus, justement, à travers différentes étapes, différents ateliers, on était capable de monter en compétence des personnes pour qu'elles se fassent un jugement éclairé sur des questions complexes. Quel que soit le niveau de complexité du sujet qui est soumis à concertation, qu'il s'agisse du public multi-acteur avec des gens qui sont compétents, qui sont voilà, des professionnels, ou qu'il s'agisse de citoyens, on est totalement en mesure d'exprimer un avis collectif éclairé. Simple différence, c'est que dans un cas, on va pas avoir besoin de monter en compétence les participants, alors qu'avec les citoyens, en fait, ça va être une étape nécessaire.
On saisit mieux désormais qui on risque de retrouver si on va dans un processus de participation. On y retrouve quasiment chaque fois nos profils types, même si ça ne signifie pas que ce sont les seuls à participer, loin de là. Notamment si on fait un effort sur la constitution de notre panel pour qu'il soit représentatif, ou en tout cas, on touche un maximum de diversité. En recourant au tirage au sort, par exemple. Et on peut même se retrouver dans des concertations avec des élus.
Cependant, je dois l'admettre, nous n'avons fait qu'effleurer la surface du sujet. Ce sujet de qui participe. Nous n'avons pas répondu franchement à cette vaste question qui peut-être vous brûle les lèvres depuis le début de cet épisode. Si on a beaucoup parlé de qui participait, qu'en est-il de ceux qui ne participent pas ? Ceux que l'on ne parvient pas à toucher, à intéresser, à mobiliser à la thématique de la participation citoyenne. Et ce sont en fait bien souvent les mêmes dont on dit qu'ils ne votent pas, qu'ils ne sont pas ou peu représentés politiquement, alors qu'ils constituent une très large part de la population. Ceux qui ne participent pas, ce sont les jeunes, les classes populaires, les immigrés ou descendants d'immigrés. Ce sont ceux qui subissent le plus ces barrières symboliques dont on vous parlait tout à l'heure. Ceux dont le coût d'entrée en politique et dans la participation sont élevés. Si on veut rendre meilleures nos démocraties, il ne faut laisser personne sur le côté. Bien au contraire, il faut rapprocher tout le monde de la décision, même ceux qui en sont plus éloignés. Ces personnes, on les désigne généralement sous le terme générique de public éloigné de la participation.
L'an passé, quand on était en master, il y avait une personne parmi nos camarades de promo qui s'animait particulièrement lorsqu'on parlait des publics éloignés. Ce n'était pas le sujet qui le dérangeait, c'était plutôt l'expression même de public éloigné. Éloigné de qui ? Éloigné de quoi ? Est-ce un éloignement géographique ? Physique ? Est-ce qu'il ne possède pas certains codes sociaux ?
Quand on parle de public éloigné, spontanément, on pense public éloigné de quoi ? Concrètement, d'un dispositif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand on dit éloigné, on pense spontanément géographiquement. Alors même que, par exemple, sur le quartier dans lequel j'ai réalisé mon enquête, s'étend sur vraiment quelques petits hectares. Donc concrètement, les habitants qui se situent à quelques mètres des locaux où sont organisés des dispositifs sont tout proches de nous, mais paradoxalement, ils sont si loin, on ne réussit pas à les voir, à les mobiliser pour participer à des dispositifs.
Alors voilà, on est allé interroger ce camarade de promo, Melvin Stecker, que vous venez d'entendre, et qui aujourd'hui encore travaille sur la question de la non-participation. Il est en bonne voie pour décrocher une thèse et, en attendant de trouver ses financements, il est venu nous parler de ce sujet qui intéresse et qui questionne. Lui, il a envie de parler et de retracer l'histoire des personnes qui ne participent pas à des dispositifs de participation citoyenne. Il défend tellement cette thématique qu'il en a fait un mémoire de recherche.
Je m'intéresse à la thématique de la non-participation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que certains citoyens ou certains habitants décident de ne pas assister à certaines réunions qui s'organisent dans le cadre de dispositifs participatifs ou délibératifs. Plus spécifiquement, à la non-participation dans la rénovation urbaine. La rénovation urbaine étant un domaine d'intervention spécifique dans le cadre de la politique de la ville. Autrement dit, une politique qui vise à intervenir sur des quartiers prioritaires, dans des quartiers d'habitat social. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi certains habitants ne participent pas à un dispositif.
Pendant des mois et des mois, il se rendait inlassablement à Villejuif dans un quartier concerné par le nouveau programme national du renouvellement urbain, NPNRU. Une fois, je l'ai accompagné pour assister à la pose de la première pierre d'un futur bâtiment sur ce quartier.
Alors ce matin, avec cette première pierre, je vais saluer votre investissement dans ce projet. Sa réussite, c'est d'abord la vôtre. Pour détruire, il faut arriver à reloger, il faut libérer de l'espace.
Imaginez, des barres d'immeubles détruites. Lors de cet événement pour annoncer le lancement des travaux, il y avait beaucoup d'élus, beaucoup d'agents et vraiment très peu d'habitants. Ou alors des habitants un peu consternés, pas au courant.
En galère, il y a de faire un truc. Ça n'a jamais construit. C'est n'importe quoi.
Vous en avez jamais entendu parler ?
Je le vois, j'habite ici, là.
C'était en bas de leur immeuble avec un barbecue offert, des jeux pour les enfants et des stands entre deux pieds d'immeuble. Mais vraiment peu d'habitants.
Bref, vous avez compris le contexte dans lequel Melvin a réalisé son enquête. Et ce qu'il a observé à Villejuif peut aussi s'observer ailleurs. Il ne faut pas perdre de vue que la non-participation est une problématique que rencontrent tous les professionnels de la participation, et pas seulement Melvin. Même la recherche a du mal à produire des connaissances sur le sujet.
Pourquoi concrètement, la plupart des chercheurs ne s'intéressent pas tant que ça à la non-participation ? Qu'est-ce qui fait que finalement ça ne retient pas l'intérêt d'un plus grand nombre de chercheurs et de chercheuses ? Alors certes, il est très difficile sur le plan méthodologique de construire un dispositif qui vous permette de rencontrer les non-participants, de pouvoir trouver des personnes qui, à la base, ne participent pas. C'est difficile. Pour autant, je serais tenté de dire que ça fait aussi partie du travail en tant que chercheur ou apprenti-chercheur de justement dépasser ces écueils-là pour répondre à une question.
Alors voilà, regardons d'un peu plus près la réflexion de Melvin, ses méthodes de recherche et les limites qu'il a pu mettre en avant.
Qu'est-ce que j'ai réussi à montrer à l'issue de ce mémoire ? Premièrement, c'est que, comme je le disais, la non-participation, elle apparaît pas comme ça à un instant T. Elle est le fruit d'une histoire. On se rend compte par exemple que dans le cas de la rénovation urbaine, un projet, ça ne se décide pas d'un jour au lendemain. Ça se programme sur du temps long et en fait on se rend compte qu'il y a des expériences passées qui peuvent conditionner l'expérience des habitants sur le terrain et qui peuvent expliquer par exemple que certains aujourd'hui ne participent pas parce qu'ils ont une représentation de la démocratie participative dans la rénovation urbaine quelque peu négative. Ensuite, deuxièmement, pour le dire assez vite, deuxièmement, j'ai essayé de m'intéresser plus précisément à un dispositif en particulier qui est le jury citoyen. Et qu'est-ce qui fait que dans ce dispositif, les professionnels qui essaient de mobiliser les habitants pour les inciter, par exemple, à candidater, à venir participer à ce type de réunion, dans les techniques de recrutement, il y a certaines limites et impasses qui pourraient expliquer la non-participation.
Ce qui est intéressant dans sa recherche, c'est qu'il a pu, au travers d'un questionnaire rempli par 60 personnes, montrer les différents motifs de la non-participation. On pourrait se dire que les gens ne participent pas parce qu'ils le refusent, parce qu'ils n'en ont pas la volonté, qu'ils s'y opposent en s'abstenant de participer. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ce qu'il a observé.
En général, on a tendance à dire « ceux qui ne participent pas, c'est parce qu'ils refusent ». Mais pour refuser, il faut bien connaître le dispositif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la non-connaissance au juré citoyen ressort à 70%. C'est-à-dire que sur la soixantaine de personnes qui ont rempli le questionnaire, vous avez 70% des personnes qui vous déclarent ne pas connaître le juré citoyen.
Et là, on ne parle pas de ne pas connaître le dispositif en tant que tel. Petit aparté, Wikipédia définit ce dispositif comme une assemblée temporaire désignée par tirage au sort ou choisie par une autre méthode aléatoire pour orienter des décisions politiques. L'idée de ce dispositif, c'est donc de mettre autour de la table des citoyens sélectionnés pour discuter d'un sujet, faire des propositions ou rendre un avis. Non, là on ne parle pas de ne pas connaître ce dispositif, on parle du fait de ne même pas en avoir entendu parler, de ne pas savoir qu'il était mis en place dans le quartier. Et voilà donc un premier motif, la méconnaissance du dispositif.
Certes, il y a eu une distribution d'une gazette, mais beaucoup d'habitants n'ont pas été informés concrètement que le dispositif existait. Parce qu'on se rend compte que, premièrement, tout le monde n'accepte pas la gazette. Dans le sens où, soit les gens la jettent directement à la poubelle, ils estiment que cette gazette, c'est un instrument de propagande électorale, les élus, finalement, ne veulent qu'une chose, c'est vendre une belle image. Ou alors, d'autres habitants vont, par exemple, prendre la gazette, mais la lire à la hâte, sans forcément essayer de s'arrêter sur des informations précises, en sélectionnant des informations, ou alors la lire sur plusieurs jours.
Le second, qu'il a retrouvé dans les réponses au questionnaire qu'il a élaboré, est le manque de temps et d'intérêt. Il l'explique assez bien dans son mémoire. Cette réponse est beaucoup revenue parce que, en l'occurrence dans ces bars, il y a beaucoup de mères seules qui n'ont pas le temps ou la possibilité de venir à des réunions le soir. Le troisième tient à ce que Melvin appelle l'auto-déshabilitation.
L'auto-déshabilitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne s'estiment pas compétentes pour participer à un dispositif participatif. Autant d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire, je n'ai aucune connaissance, participer à la sélection d'un projet architectural, certains habitants vous disent clairement, moi je n'y connais rien. Donc, autant vous dire que je ne vais pas candidater. Et vous avez ce qu'on appelle aussi des causes plus symboliques. C'est-à-dire qu'il y a certains habitants qui certes, ont des connaissances, mais ne vont pas se sentir capables de pouvoir les exprimer à l'oral devant un groupe de personnes. Et donc, quand bien même certaines personnes ont des connaissances, si elles s'estiment inaudibles aux yeux des autres, elles ne vont pas candidater au jury citoyen.
Ce sentiment qu'il décrit, on le retrouve aussi lorsqu'on anime des dispositifs. Certaines personnes n'osent pas prendre la parole pour cette raison, mais là, c'est encore plus fort. Les personnes refusent de venir parce qu'ils ne s'en sentent pas à leur place. Les autres motifs sont surtout liés d'abord aux dynamiques internes, par exemple un dispositif qui concerne uniquement des habitants d'un quartier entre qui les relations sont très tendues, compliquées, voire rompues. Alors oui, certaines personnes ne veulent pas les retrouver dans une réunion publique ou lors d'un atelier. Enfin, le dernier motif est la valeur instrumentale, l'impression que tout est déjà joué d'avance, qu'on n'aura aucune prise sur la décision finale.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique.
Mais plus que les motifs de la non-participation, la question qui traverse aussi son mémoire, c'est d'aller vers ceux qui ne participent pas et qui, finalement, ont beaucoup de choses à dire.
Pendant qu'il réalisait son enquête, Melvin a dû s'interroger sur sa démarche, les méthodes qu'il mettait en place pour obtenir des réponses des non-participants.
Alors, peut-être pour répondre à cette question, mais en partant, en expliquant toute la démarche, mon but, clairement, c'était de rencontrer les non-participants. Donc le principal défi de cette enquête, c'était d'atteindre les non-participants au jury citoyen. Pour cela, initialement, je souhaitais utiliser des intermédiaires, c'est-à-dire des habitants qui sont considérés un peu comme des ressources, qui participent à la vie associative, collective et qui sont connus de tous. Donc en organisant des entretiens avec eux, je leur ai proposé pourquoi pas de diffuser ma démarche et de revenir vers moi si tant est que des habitants étaient motivés pour participer à cette démarche. Autant le dire avec une certaine transparence, ça n'a pas été d'un grand succès. Donc ça, j'étais amené à me questionner. Deuxième stratégie, toujours en gardant en tête que le moyen à partir duquel je souhaitais interroger la non-participation, c'était l'entretien, bah pourquoi pas essayer d'abaisser le seuil d'entrée de l'entretien en multipliant les voies d'accès, c'est-à-dire en me rendant dans le quartier le week-end et en proposant aux tout venants de participer à un entretien en présentant la démarche d'eux-mêmes. Enfin, flop total.
Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Je me suis orienté vers une dynamique qu'on pourrait appeler du porte-à-porte. C'est-à-dire rencontrer tous les habitants du quartier. Et quand j'ai tous les habitants du quartier, c'est concrètement parcourir toutes les tours, toutes les barres d'immeubles en toquant concrètement aux portes. Bien pendant 3 semaines, le week-end et une semaine pendant les vacances scolaires, j'ai toqué à toutes les portes avec un questionnaire pour me présenter initialement, pour présenter ma démarche.
Bonjour, Mayeul.
Pour recueillir quelques informations, il faut le dire. Et puis surtout pour me servir de cette première démarche pour engager une discussion. Et donc, les habitants se servaient de mon questionnaire pour dire des choses, pour transmettre des messages. Et donc, certains habitants réussissaient à incarner leurs propos et voulaient aller plus loin. Parce qu'ils sentaient bien que discuter sur dans les parties communes, c'était pas quelque chose qui était le plus intéressant et le plus facile pour tout un chacun.
Si on revient sur l'allée vert, il faut rappeler que ce n'est pas une technique propre et inventée dans le champ de la participation.
L'allée vert, ce n'est pas un concept scientifique. C'est issu d'une pratique du travail social, dans le sens où on avait tendance à rencontrer les familles, et notamment les familles ouvrières, pour essayer d'évaluer les situations. Mais concrètement, aujourd'hui, l'allée vert, c'est initialement et surtout utilisé dans le travail social par rapport à une thématique particulière et surtout une problématique. Concrètement, sortir de son bureau pour investir les lieux de vie ou adopter une posture d'écoute.
Depuis quelques années, pour pallier le manque de diversité dans les dispositifs, on a fait appel à une méthode bien ancienne, le tirage au sort. Sur la base de listes, souvent électorales et selon des critères que l'on définit, genre, âge, niveau de diplôme, profession, lieu d'habitation, on procède à un tirage aléatoire qui nous permet de tendre vers une représentativité d'une population choisie, par exemple celle de toute la France, d'un département en particulier, ou même d'un quartier. Le tirage au sort, on l'a utilisé pour la Convention citoyenne pour le climat, avec la volonté d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Il y avait par exemple parmi les 150 membres, 16% d'inactifs ou 26% sans diplôme avec un BEPC ou un CEP. Bref, on cherche à proposer aux gens qui ne viendraient pas habituellement à une démarche de participation de devenir participants.
Initialement, le tirage au sort tel qu'il a été utilisé en France et notamment dans le cadre de la politique de la ville liée au Conseil citoyen, on a utilisé le tirage au sort comme étant le moyen, la nouvelle technologie pour essayer d'inclure des habitants qui restaient à distance de tous ces dispositifs, de toutes ces réunions publiques.
Malgré l'engouement qu'il suscite, le tirage au sort attire aussi les critiques.
Le tirage au sort, c'est un outil qui est intéressant pour essayer de toucher de nouveaux publics, mais pas pour les mobiliser, parce que, in fine, le choix de participer ou pas leur reste acquis. C'est à eux que revient la décision de participer ou de ne pas participer. Il faut que ça soit combiné avec d'autres outils de mobilisation. Le tirage au sort, c'est pas un outil de mobilisation. Le tirage au sort, c'est un outil de sélection.
Et finalement, on en vient à cette question. Pourquoi il faudrait que les non-participants participent ? Pourquoi il faudrait une diversité de public ?
Alors, qu'est-ce qui fait que la participation n'aurait de sens que si elle incluait le plus de monde possible et surtout une diversité de personnes. Si vous essayez de penser par exemple en termes de calibrage des politiques publiques, est-il possible aujourd'hui de réfléchir à une question si les premiers intéressés, ceux qui vont être impactés par cette réflexion, ne sont pas associés à ce débat ?
Et oui, la diversité des opinions fait la richesse de la participation citoyenne. Des avis contradictoires, des idées différentes permettent de nourrir une décision politique, un projet d'aménagement. Cette pluralité d'opinions met en évidence des réalités de vie différentes, des expériences multiples et fait émerger des solutions qui s'ajustent à cette diversité. Alors oui, allons à la rencontre de tous les publics, des non-participants et des habitués, des très vieux et des très jeunes. On insiste, mais c'est essentiel. Faire converger les citoyens et les citoyennes pour mieux vivre ensemble. Et voilà, encore un épisode rondement mené. On espère que vous avez aimé cet épisode. Vous le retrouverez en podcast dès ce week-end sur le site internet de Radio Campus Paris. Chronique démocratique, une émission écrite et réalisée par Yann Bassereau et Marie Aubert en coproduction avec Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois. À bientôt !